auditeurs, bonjour. Je vous propose, comme l'an passé, d'explorer les correspondances et journaux d'écrivains du XXe siècle. L'ouvrage de Philippe Solers, un vrai roman, mémoire, paru aux éditions Gallimard en 2008, a retenu mon attention. En effet, entre la fiction revendiquée par le mot « roman » et l'aspect authentique proposé par « vrai » et « mémoire », il y a un paradoxe à explorer. Et l'homme et l'auteur Philippe Solers se revendiquent comme un roman à lui tout seul. Et quand il annonce par le titre de cet ouvrage un vrai roman, il y a tout lieu de se méfier. C'est en réalité son autobiographie qu'il rédige, reprenant à son compte le mentir vrai cher à Aragon. Provocateur et cultivant le paradoxe, ce Bordelais, né en 36, s'avère très parisien, mais aussi contempteur de ce village électronique prédit par Marshall McLuhan. C'est donc dans un style incisif, sublimant le brio des joutes oratoires auxquelles l'auteur nous a habitués, que cette vraie autobiographie est rédigée. Mais au-delà de l'élégance du style, c'est la part plus intime qui apparaît entre ces lignes et à travers les portraits croisés de ses contemporains se révèle la personnalité profonde de Philippe Joyot, plus connu sous le nom d'écriture de Philippe Solers. Que je vais lire maintenant sont tirés du chapitre « Images ». Écoutez le film truculent que nous propose Philippe Solers sur notre époque. Son ironie mordante est tout à fait revigorante. Images. J'ai eu jusqu'à 50 ans ce que Casanova appelle le suffrage à vue. Vous avez un corps plutôt plaisant, les autres y sont sensibles. Après tout, on vit aussi dans une société animale à effet d'image. Il s'ensuit des facilités, des occasions. Vous avez peu de temps, entre 3 et 12 minutes, pour vous adresser à travers des millions de spectateurs, plus ou moins distraits, à quelques milliers d'amateurs, peut-être seulement une centaine, voire 3 ou 4. Vous êtes éloquent. Vous auriez pu improviser en d'autres temps des sermons, des oraisons funèbres, des panégyriques à la Bossuet tenant du haut de sa chaire. Voyez-le comme il le dit lui-même en train d'ouvrir un cercueil devant la cour. Au-dessous de lui, le roi, ses maîtresses, la reine, les incrédules, les pêcheurs, les débauchés, les tueurs, forcés de subir sa parole. Un régal. Vous avez une facilité d'élocution, elle est flagrante, agaçante. On vous préférerait bégayant, mais tant pis. 5 ou 6 idées à la fois, pourquoi pas, vous vous lancez dans une digression incongrue, vous trouvez un mot d'esprit, vous abondez en citations de toutes sortes en prenant soin, par une soudaine fausse note, de n'être jamais perçu comme l'alibi prévu. La droite ne se reconnaît pas en vous, la gauche non plus. Tout fonctionne. C'est ainsi qu'on vous a vu assez souvent chez toutes les grandes vedettes télévisuelles de votre époque. Vous n'êtes jamais invité seul, bien entendu. Vous apparaissez en général en fin d'émission. Vous souriez, vous attendez votre tour. Vous écoutez des laïus interminables. Vous ne protestez jamais. Vous laissez jouir le piteux sadisme spectaculaire. Vous patientez, vous glissez. L'animateur n'a rien lu, sauf les derniers articles parus à votre sujet. Les journalistes, c'est connu, se contentant le plus souvent de réciter les autres journalistes. Vous connaissez les slogans, vous y répondez par d'autres slogans. Vous passez comme ça des heures, en taxi, d'un studio à l'autre, ce qui vous permet de connaître à fond les quais de la Seine. le jour, la nuit. Vous rentrez, vous dormez, et le lendemain, au réveil, vous notez vos rêves. Il est 6 heures du matin, petit déjeuner rapide, jus d'orange, yaourt, œufs à la coque, 5 minutes. Café, bain, après quoi vous reprenez votre stylo, votre écoute réelle, le papier, l'encre. Et tout redevient merveilleusement joyeux, vrai, vivant. Le premier platane ou marronnier venu vous approuve. Ah, ça s'entasse, c'est votre journal, en plus des cahiers, des carnets. On vous retrouve un peu partout à l'étranger, à Paris, en province. Quelle surprise, voici un matin d'été. Dans ces films, ces disques, vous êtes très différent de vos apparitions dans le système. Normal, puisqu'on vous laisse enfin respirer et parler. Que se raconte le milieu littéraire français depuis plus de 30 ans peut d'ailleurs être décrit comme un western classique, sans cesse rejoué, avec de temps en temps adjonction de nouveaux acteurs. Il y a un beau, un bon, un vertueux exotique, le Clésio, et un méchant, moi. Je m'agite en vain. Le Clésio est souverain et tranquille. Il s'éloigne toujours à la fin, droit sur son cheval, vers le soleil, tandis que je meurs dans un cimetière, la main crispée sur une poignée de dollars que je ne posséderai jamais. Modiano, lui, a un rôle plus trouble. Il est à la banque. Il avale ses mots. Il a eu de grands malheurs dans son enfance. Il est très aimé des habitants de cette petite ville culpabilisée de l'Ouest. Aimé, mais pas adoré comme le Clésio, dont la photo en poster occupe les chambres de ces dames. Le diable, ne l'oubliez pas, c'est moi. Je suis un voleur, un imposteur, un terroriste, un tueur à la gâchette facile, un débauché, un casseur. J'ai des protections haut placées, des hommes et des femmes de main. Je sème la peur, je ne crois à rien. J'expierai mes fautes. Qui d'autre ? Le révérend et érudit Quignard, qui depuis quelques années expédie les services religieux funèbres en latin compressé rapide et les enterrements à la chaîne au cimetière. Dans le film, mes conversations avec le révérend dans son temple prouvent à l'évidence que je suis loin d'être la brute épaisse que croit l'opinion. Mais justement, c'est là que mon cas s'aggrave. Nous nous parlons, le révérend et moi, en grec, en latin, en hébreu, en style médiéval et parfois même en français. Je pourrais être absous si je me repentais, mais rien à faire. La débauche me ressaisit, je file au saloon. Là, sous le portrait tutélaire de l'ancienne propriétaire Marguerite Duras, parmi quelques filles recherchées pour leur esprit, Catherine Millet, Christine Angot, Virginie Despentes, je retrouve les mauvais garçons du lieu. Michel Houellebecq, par exemple, clope au bec, excellent au poker. Ou Jonathan Little, un nouveau venu redoutable qui a fait trembler Chicago. Les plus anciens se souviennent du mince rabbin Jérôme Lindon, toujours accompagné du strict pasteur Beckett, air de grande rigueur et de mélancolie profonde à peine égayé par le numéro des magiciens porno soft ambulants Catherine et Alain Rome-Grillet. On a vu naître ensuite des auteurs talentueux mais plus frivoles, comme Frédéric Becbédé, dit 9-9, à cause de ses pistolets flambant neufs, ou Patrick Besson, seul communiste authentique et sentimental de cette époque dominée par les puits de pétrole. D'autres encore, Nab, Zagdansky, les deux frères ennemis, dont les duels dans la grande rue ont autrefois défrayé la chronique. Le premier ayant choisi la malédiction d'une sorte d'islamisme radical, le second ayant préféré les arabesques du Talmud. Je n'oublie pas non plus le brillant shérif Murray, passé de la délinquance au maintien de l'ordre. Très bon tireur, mais de plus en plus pessimiste et désespéré, et pour cette raison chouchou de bien des dévotes. Il faut encore préciser que beaucoup d'émissions de télé se sont déroulées là, en direct, avec des animateurs prestigieux, Bernard Pivot, Thierry Ardisson, et tant d'autres, venus tout exprès de Paris dans ce trou perdu du Texas. Je passe sur les différentes désinformations m'attribuant de temps en temps un pouvoir exorbitant dans la République des lettres. Alors que sur ce dernier point, je suis plutôt d'un monarchisme endiablé. À en croire une multitude d'articles, je serais un Manitou maniant tout. Un parrain. Un faiseur d'opinions et de prix. Moi qui ne vois aucun juré du cirque. En tout cas, un agent d'influence considérable. Rumeur risible qui ne demande qu'à se transformer en son contraire. On m'aura même accusé de diriger le monde des livres où je publiais chaque mois des articles classiques repris avec beaucoup d'autres dans La guerre du goût ou Éloge de l'infini. Josiane Savigno a été et reste une grande amie qui aime mes livres. Et alors ? Je ne suis jamais intervenue en quoi que ce soit dans la rédaction de ce supplément institutionnel, où d'ailleurs je n'ai mis les pieds qu'une fois pour un verre rapide. Cela ne m'a pas empêché une effarante cabale des médiocres comme contre Savigno, injures et insanités, jalousie, écume. Que mes amis et mes proches ne finissent pas par me détester à cause de toutes les malfaisances et les dommages dont ils sont l'objet à mon sujet est une grâce. Après tout, je dois la mériter. Je le redis donc calmement. Je n'ai rien à cacher. Rien à me reprocher. Rien dont je doive m'excuser ou rougir. Aucun regret. Aucun repentir. Aucune bassesse. Qu'on me juge, moi et mes écrits, comme on voudra. Actualiser les noms et les fonctions dans ce passage de Voltaire. Les hommes sont bien sots. Et je crois qu'il vaut mieux bâtir un beau château comme j'ai fait, y jouer la comédie et y faire bonne chère que d'être lévrodé à Paris comme Helvétius par les gens tenant la cour du Parlement et par les gens tenant l'écurie de la Sorbonne. Comme je ne pouvais assurément ni rendre les hommes plus aimables, ni le Parlement moins pédant, ni les théologiens moins ridicules, je continuerai à être heureux loin d'eux. J'aime bien le verbe « lévroder » dans ce paragraphe. Je suppose qu'il veut dire « chasser comme un lièvre ». Il faut tout de même rappeler que de l'esprit d'Helvétius a été condamné au feu par le Parlement le 6 février 1759, en même temps d'ailleurs que la religion naturelle de Voltaire. Par le même arrêt, la diffusion de l'encyclopédie était suspendue. Heureux temps que le nôtre où l'esprit n'est pas jeté au feu mais noyé dans la marchandise. Il reste à l'esprit à se transformer en poisson dans l'eau, ou plutôt en poisson dans les cataractes. Un index d'esprit, et tout est transformé. Je l'ai déjà dit, il suffirait, pour triompher, d'être très nombreux, c'est-à-dire 12. En somme, vous êtes très content de vous ? Mais pas du tout, seulement de ce que j'ai fait et continue à faire.
Extraite du chapitre Plongée. Je me perçois soudain que je n'étais pas à Paris lors d'événements apparemment importants de l'histoire courante. En 1974, je suis à Pékin, au moment de l'élection de Giscard, et en 1979, à New York.
Quand a lieu la prise de l'ambassade américaine à Téhéran par les barbus islamiques. Un tout autre film commence. En mai 1981, je suis à Venise quand Mitterrand parvient à la présidence de la République française. Apothéose panthéonesque, suivie de l'attentat contre Jean-Paul II à Rome. Dois-je m'en excuser ? C'est cet assassinat manqué qui me paraît de loin le signe principal et profond des temps. Je suis un mauvais citoyen, soit, mais est-ce si grave ? Fin des années 80, début des années 90, et là, des difficultés, des malheurs, des deuils. Il y a l'échec relatif de mes livres, bien sûr, mais surtout la mort de ma mère en août 91. J'ai raconté cet événement et son étrangeté dans Le Secret. Je me souviens de la recommandation de ce jeune médecin à qui j'ai demandé d'abréger ses souffrances. Ne jamais répondre aux questions qu'on ne vous pose pas. Grande leçon avec les mourants. Et le serment de main à main vers la fin. Dit tout au-delà de tout. Ce n'est pourtant pas à moi, mais à ma sœur Annie que ma mère a lâché. C'est dur de mourir. Avec moi, silence. Grand et profond silence parlant. On meurt décidément en été chez nous. D'après ce que me rappelle la stèle du cimetière de Bordeaux, la dernière place de la tombe Joyau était pour ma petite maman, ou plutôt maintenant ma petite fille de gaieté et de peau très douce, et il a fallu forcer un peu pour faire entrer le cercueil. Ma sœur Annie a commencé une prière à voix haute, mais sa voix s'est brisée. J'ai embrassé une dernière fois ma mère lors de la mise en bière. Sa beauté calme, froide et déterminée m'a frappée. À 10 ans, au fond du jardin, je suis éblouie par le simple fait d'être là, dans le limité, illimité de l'espace. À 20 ans, grande tentation de suicide. Il est -2. Mais la rencontre avec Dominique me sauve. À 30 ans, rechute et vif désir d'en finir. Mais la rencontre avec Julia me sauve. À 40 ans, l'abîme. Ennui de santé de mon fils. Paradis impossible. New York dramatique. Année de plomb en France. À 50 ans, pas toi. C'est tout ce que j'ai à me dire. À 60 ans, j'entrevois la synthèse. Et à 70, le large. Avec un talisman venu de Nietzsche, la chance, large et lent escalier. Je sais de quoi je suis coupable, de ne pas l'être. Plus exactement, d'avoir résisté à toutes les tentatives d'intimidation et de culpabilisation. La bourgeoisie française a à peu près disparu, a dans sa grande majorité des placards, plus ou moins honteux. Vichy, l'Algérie, etc. Et il est facile de le lui faire sentir. Mais les placards d'en face, si on peut dire, sont énormes. Staline. Un jeune bourgeois sans complexe est donc une rareté dans ce vieux pays soumis à une loi spéciale, comme l'a bien vu Marx, la lutte des classes. On parle beaucoup et trop de sexualité, que je préfère écrire à la Queneau « sexualité », sans vouloir savoir qu'elle n'est le plus souvent qu'un déguisement de la lutte des classes. Déranger ça dans un sens ou dans l'autre avec l'accord de vos partenaires, voilà un délit sévèrement jugé. Vous êtes coupable. De quoi ? De gratuité. Moralité, le religieux ne prend pas. Le contrat social est rompu. La dette est renvoyée à l'illusion. Personne ne doit rien à personne. Et c'est là qu'on peut dire, enfin, qu'il y a eu jouissance réciproque. Je le répète. Le rire, un certain rire, est la signature du gratuit. Hommage et honneur donc dans le monde entier aux petites femmes sensibles, à leur rire, à leur caprice, à leur fantaisie. Enfin, le dernier chapitre dont je vous propose des extraits s'intitule 18e, une période d'élection pour Philippe Solers. Le 18e siècle n'est pas seulement une époque, mais un lieu de l'esprit où le français respire à plein poumon. Une cure d'air frais, de fantaisie, de contradictions intégrées, de variétés inépuisables, tout ça. Et voilà une croisière qui m'a tentée. Nous sommes en 1994, année où je publie un gros livre manifeste, La guerre du goût. Premier volume, dont le second, Éloge de l'infini, paraîtra en 2001, en attendant le troisième, Discours parfait, que je suis en train d'orchestrer. Ma décision de cure intensive est prise et l'opportunité se présente grâce à l'amicale complicité, jamais démentie, de Jean-Claude Simoin aux éditions Plomb. C'est d'abord une biographie de Vivant Denon, 1747-1825, Le Cavalier du Louvre, enfin un Casanova, Casanova l'Admirable, 1998, et puis un Mozart, Mystérieux Mozart, 2001. On peut ranger dans la même série ensoleillée le dictionnaire Amoureux de Venise, 2004. Ces livres ont été l'occasion de voyages multiples en Europe. Allemagne, Autriche, Tchéquie, Berlin, Prague, Strasbourg, Vienne. L'Europe, j'en suis encore à m'étonner que les écrivains français ne parlent jamais de ce continent qui semble les effrayer par son histoire tragique, mais peut-être encore davantage par sa réalité splendide. Soit ils sont exotiques, en braves français glébeux, provinciaux, mal arrachés au Cantal ou à la Corrèze, soit ils sont fascinés par les États-Unis et le Proche-Orient. On ne les voit jamais en Espagne, en Italie, au bord du Rhin, du Pô ou du Danube, et pas davantage en Angleterre, en Irlande, en Hollande, sans parler de la Suède ou du Danemark. Question de date. Allons-nous rester encore longtemps entre 1940 et 1945, ou bien en Algérie, c'est-à-dire gênés et coupables? Magnifique Europe, un océan de crimes n'a pas réussi à te détruire ni à t'altérer. Je me revois à Tübingen deux fois dans la neige, montant vers la tour d'Olderlin, ouvrant tout de suite les fenêtres de sa chambre en rotonde, un vase de fleurs sur le parquet, regardant sa nature et son fleuve, le Neckar. Et puis, dans le train, dans le grand tournant impétueux de Bingen, lisant le Rhin et sa force d'évocation fluviale. Une autre fois, je suis sur le lac de Constance. Des abeilles viennent, dans le jour très blanc, tourner autour d'un pot de confiture. À Prague, quelle surprise! La ville noire et maudite de Kafka est de l'occupation russe, est une cité aux couleurs d'Italie. Des messes et des concerts partout. Comme pour la première de Don Giovanni en 1787 avec Casanova venu en voisin pour cette fête dirigée par Mozart. Le château, une merveille. Les églises détruites, elles renaissent comme les synagogues de Berlin. L'Europe catholique fait signe de toutes parts. Et ne pas vouloir le savoir implique un aveuglement atroce. À chaque instant, les préjugés romantiques, la pose romantique, noient la vision, l'évidence, l'écoute. Et c'est sur ce dogme mélancolique que la dévastation publicitaire s'installe et progresse. Étrange hypnose donc que la moindre sonate de Haydn balaye sur le champ. Ça ne suffit pas, écoutez le Canadien Gould faisant sonner le vieux Bach, ou Cecilia Bartoli ravageant le ravage avec Vivaldi dans sa gorge. Thank you. cette période de prix littéraire, signalons que Un vrai roman, Mémoire, a obtenu le prix Saint-Simon en 2008. Ce monde des lettres qui s'agite et commente à chaque rentrée littéraire la légitimité de l'attribution de tel ou tel prix est bien connu de Solers, animateur de la revue Telle Quelle de 60 à 82, puis de L'Infini à partir de 1983 et chroniqueur attitré au Monde des Livres. Cette lecture a été ponctuée par trois moments musicaux. Tout d'abord, le morceau de John Coltrane, Stella Regions, puis l'une des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Glenn Gould. Enfin, chantée par le contre-ténor Philippe Jarouski, Le ciel nemico de Giovanni Maria Capelli. Nous vous remercions de votre écoute et vous rappelons que vous pouvez à tout moment envoyer vos impressions sur cette émission à Radio G. Anne Pruneau et à la technique, Claude-Michel Pumna. Vito in domani.